Ce message vous est proposé par l'Église protestante évangélique de Lons-le-Saunier.
Voilà, donc je vous invite ce matin à entrer dans cette lecture de l'Évangile de Luc. Vous allez voir, elle est pleine de surprises. Luc 13, 22 à 30. Jésus passait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Il leur dit alors, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, quand resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous » et qu'il vous répondra, « Vous, je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et c'est sur nos places que tu as enseigné. » Et il vous dira, « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura les pleurs et les grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jeter dehors. Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et ainsi, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. Ouvre nos cœurs, Seigneur, au mystère, au trésor de ta parole. Amen. Amen. Jésus est en route vers Jérusalem. Il sait que ça va mal se passer là-bas. Jésus s'achemine doucement vers la porte de la ville sainte, qui sera le terme de son voyage. La porte de la ville sainte, pour lui, ce sera une porte très étroite, une porte douloureuse, par laquelle nul ne souhaiterait passer, puisque ce sera la porte de la croix. Mais à Jérusalem, en passant de la mort à la vie, Jésus ouvrira aussi aux hommes, aux êtres humains, la porte de son royaume. Jésus ouvrira aux hommes la porte de son royaume. Ah, aux hommes. Bon, je prends homme dans un sens générique, homme et femme. Aujourd'hui, il faut préciser. À tous les hommes, ou à quelques élus seulement, voilà une question qui revient souvent. Alors certains y répondent en mettant l'accent sur la première partie de ce message de l'Évangile. Ils soulignent l'étroitesse de la porte. D'autres mettent de préférence l'accent sur la dernière partie de ce passage pour souligner au contraire la multitude des sauvés. Jésus dit, il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai bien envie de vous faire partager ce matin, c'est justement que Luc regroupe ces deux réponses dans un seul discours de Jésus. Et nous voilà bien avancés. Et vous allez voir. Tout d'abord, le nombre. Le nombre. Quelqu'un dit à Jésus, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Cette question du nombre des élus était souvent débattue par les rabbins. Et c'est vrai que dans les églises, on se la pose toujours. Ça viendra peut-être un jour dans la boîte à questions, un jour ou l'autre. Et il est bien normal que l'on consulte Jésus sur un point aussi controversé. Alors, quelle réponse apporter ? Chic, François va nous donner la réponse. Eh bien, non. L'Apocalypse nous donne un chiffre. Ah, c'est bien. L'Apocalypse, Apocalypse 7, 4, parle de 144 000 élus. Eh bien, voilà. Si nous étions témoins de Jéhovah, nous serions contents. Nous aurions notre chiffre. Mais non, il s'agit de toute évidence d'un chiffre symbolique. Hein. 12 fois 12 000, hein, vous savez, vos tables de multiplication. 12 fois 12 000 qui expriment la plénitude du peuple de Dieu. Et d'ailleurs, Jean parle juste après dans l'Apocalypse d'une foule immense que nul ne pouvait dénombrer de toutes nations, tribus, peuples et langues. Une foule immense comme dans un match de foot. Manifestement, la porte étroite est donc en mesure de laisser passer pas mal de monde quand même. Quant à Jésus, il ne donne aucune précision. Il oppose un refus à ses spéculations sur le nombre des élus. La question du salut pour lui ne doit pas se poser d'une manière impersonnelle, d'une manière théorique, chiffrée. Jésus n'accepte pas qu'on le consulte comme un dictionnaire ou un institut de sondage ou un site internet. Il a d'ailleurs juste avant refusé de donner la date du jugement, toujours dans l'évangile de Luc. C'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Alors il ne répond pas non plus sur le nombre des sauvés. Bien ennuyeux, hein ? Ce que veut Jésus, c'est appeler ses auditeurs à faire effort pour le royaume. Alors il les interpelle personnellement. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Jésus nous exhorte à l'obéissance, à garder fidèlement sa parole, à être ses disciples. Alors, il nous a lancé un avertissement. Et on a cette parole dure à la suite de son discours. Vous, je ne sais d'où vous êtes. À la place d'une réponse statistique, Jésus nous invite à faire attention. Le maître de maison répliquera à ceux qui frapperont à la porte fermée, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » En fait, Jésus place ses interlocuteurs en face de leurs responsabilités. La porte fermée dans le ciel correspond à une porte fermée dans le cœur, à une porte déjà fermée dans le cœur, et Dieu respectera finalement jusqu'au bout le choix de ceux qui ne veulent pas de lui. Alors ces exclus se mettront à plaider. Nous avons mangé et bu devant toi, et c'est sur nos places que tu as enseigné. Probablement que Jésus vise ici directement ses compatriotes qui sont en train de l'écouter et qui refusent de croire en lui. Mais par ses paroles, Jésus nous apprend aussi qu'il ne suffit pas de la proximité du Christ et de sa parole pour être sauvé. La parole de l'Évangile offre la lumière. L'Esprit révèle cette parole en nous. Encore faut-il la foi pour l'accueillir, et encore faut-il un cœur pour la rayonner. Dans son évangile, Matthieu apporte encore d'autres précisions. Il met en garde contre une foi trompeuse. Alors là, je passe dans l'évangile de Matthieu qui correspond un peu à ce discours dans l'évangile de Luc. Et là, Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ?» Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est dur, hein ? Et c'est tellement réaliste. Comment ne pas penser aux crimes que l'on a commis au cours de l'histoire sous la bannière de la croix du Christ ? Comment ne pas évoquer, aujourd'hui encore, le terrorisme fanatique qui trouve sa justification dans la guerre sainte, qui tue au nom de Dieu. Mais plus près de nous, combien aussi de blessures dans les églises, dans les œuvres chrétiennes, combien de tromperies, de manipulations, d'abus d'autorité, de scandales. Et la poutre est aussi dans nos yeux. Quand nous examinons nos vies personnelles, familiales, relationnelles, professionnelles, ne pourrions-nous pas être comptés parmi ceux qui font le mal ? Alors comprenons-nous bien, les avertissements de Jésus ne sont pas une menace. rappelons-nous toujours par qui ils sont prononcés. Ils sont prononcés par l'agneau de Dieu, celui qui est mort pour nos péchés. Mais ils sont un appel à le suivre sur le chemin de l'amour. Qui veut sauver sa vie, dit Jésus, la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. C'est dur et en même temps, c'est rempli d'espérance, parce que se perdre, c'est précisément ce que Jésus a fait pour nous. Perdre va à l'encontre de l'esprit du monde qui ne pense qu'à gagner, à amasser, à dominer ou à se protéger par la force des armes, de l'argent ou de ses lois. Dans ce sens, on peut dire que la plupart des églises chrétiennes ont fait des grands pas en direction d'une prise de conscience de leur vocation à la paix, à l'unité, on va rentrer bientôt dans la semaine de l'unité, à l'humilité, parfois par la force des choses, elles ont parfois été bien obligées. Un évêque catholique brésilien qui s'appelait Dom Helder Camara disait avec conviction cette phrase extraordinaire « Je préfère mille fois me faire tuer que tuer moi-même. » Ce fut l'attitude de Jésus et des premiers chrétiens. C'est une manière radicale de faire effort pour le royaume. Mais le don de soi-même, bien sûr, passera d'abord au quotidien, par des gestes de partage, de service et d'amitié beaucoup plus simples. Ce renoncement à soi-même n'en est pas moins très exigeant. Alors que cela devienne un avertissement pour nous tous, nous savons combien le mal nous entraîne facilement. Et le mal entraîne et asservit facilement les multitudes. On le voit bien, par exemple, en Iran actuellement. Ce n'est pas facile d'y résister. Et les chrétiens persécutés dans le monde entier nous le rappellent. Alors, face à la puissance du mal, le Christ invite librement chaque personne à le suivre. Et c'est bien l'usage de cette liberté, de cette responsabilité qui nous invite à nous donner au Seigneur et aux autres, même à ses ennemis, qui constitue un exercice très difficile et donc une porte très étroite. Et pour y arriver, nous ne pouvons compter que sur le secours de Jésus lui-même. Jésus est passé par cette porte étroite. Il l'a fait en se donnant à son Père et aux hommes. Et Jésus pouvait même affirmer « Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Voilà, nous l'avons chanté, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, nous l'avons prié. Désormais, le salut est donné par Jésus-Christ. Que cela ne s'écarte jamais de notre esprit, de notre cœur. Le salut est donné par Jésus. Et c'est bien pourquoi Jésus ne s'arrête pas à une mise en garde et à un rappel de l'exigence de Dieu. Jésus poursuit sa réponse avec une prophétie d'une bouleversante largeur, aussi large que le pardon et l'amour de Dieu. Beaucoup, sans avoir vécu à proximité du Christ, sans même connaître son visage, et nous en faisons partie, viendront du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, effectivement, dans le monde entier, des femmes et des hommes entendent le message de l'Évangile. Beaucoup deviennent disciples de Jésus-Christ. Il ne faut pas se contenter de voir ce qui se passe ici, allons se soigner, hein, nous sommes un petit troupeau. Hein. Regardez ce qui se passe à l'échelle du monde entier. C'est assez extraordinaire. Bien des derniers deviennent premiers. Les missionnaires parle souvent du dynamisme de la foi dans les pays où ils ont été envoyés. Peut-être que Kurt et Ruth pourraient nous parler de ce qu'ils ont vu au Cameroun. Et partout de par le monde, des gens montrent par leur vie qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils aspirent à faire la volonté de leur Père qui est aux cieux. La porte étroite permet donc quand même, ouf, à des foules d'entrer au festin dans le royaume de Dieu. Alors cette image de la porte étroite utilisée par Jésus nous place en face d'une double réalité du salut. a déjà la porte. Cette porte est signe d'espérance, puisqu'elle donne accès à un ailleurs. C'est déjà pas si mal. Ça prouve qu'il y a quelque chose derrière cette porte, quelque chose d'intéressant. Cette porte donne accès à rien de moins qu'à la plénitude du royaume de Dieu. Elle nous apprend que le salut est bien là, que le salut est à notre porte. En Jésus-Christ, on peut dire aussi qu'il est à portée de main, offert à tous. Cette porte, c'est aussi, d'une certaine manière, celle du tombeau vide, le jour de Pâques. Pour tous, la mort est vaincue par Jésus-Christ. Et cette porte, nous dit le Seigneur, n'est pas fermée. Pour l'instant, elle reste grande ouverte pour donner accès à un royaume capable d'organiser un festin en faveur d'une multitude d'hommes et de femmes. La porte, c'est l'amour de Dieu pour tous. La porte, c'est Jésus, le Christ. Et justement, cette porte est étroite parce qu'elle se nomme Jésus-Christ. Jésus-Christ, à l'échelle du monde, c'est quoi ? Rien du tout. Un homme parmi les hommes, un Nazaréen, un crucifié. Jésus n'est pas venu dans la grandeur et dans la puissance, mais dans l'humilité, dans la faiblesse. Et il faut beaucoup se baisser avec lui pour le trouver. Alors quand on est grand, c'est encore plus difficile. C'est en étant le dernier qu'on devient avec le Christ le premier. La porte est étroite parce que c'est Jésus caché au cœur du monde, dans la parole et le témoignage de l'Église. Et parfois nos églises ont tendance à rendre cette porte encore plus étroite, tellement nous avons du mal à proclamer la joie de l'Évangile. D'une Église qui est aussi appelée à devenir à son tour servante et pauvre. La porte est étroite comme un amour jaloux et exclusif, comme l'amour de Dieu pour nous et comme celui qui nous appelle à vivre avec lui. Il nous ouvre la porte. Le monde ne sait pas reconnaître cet amour. Le monde ne saurait l'accepter sans une conversion radicale. Parce que entrer par cette porte qui est Jésus, cette porte de l'amour, exige un combat contre nous-mêmes, une mort même à nous-mêmes. Mais nous savons que dans ce combat, le Fils de Dieu nous accompagne et nous assure de la victoire. L'Esprit de Dieu nous le révèle. Et l'histoire, malheureusement, de la détresse et de la violence humaine qui se répète encore, nous le confirme. C'est cette porte seule qui s'appelle Jésus-Christ, qui est pour le monde source de salut, de paix, de vie et de bonheur. Depuis des siècles, les hommes ont cherché ailleurs leur salut, leur refuge, pour aller de déception en déception, dans les pleurs et les grincements de dents. Pendant des siècles, des chrétiens aussi, mais pas tous malheureusement, des chrétiens au risque d'être persécutés, sont allés à l'encontre de cet esprit du monde pour rappeler qu'une porte existe. Certes, elle est étroite, mais elle donne accès à la paix éternelle. Le fracas des armes, le règne de l'argent et du pétrole, le fanatisme religieux, le refus du Seigneur et de sa parole n'apportent que désillusion. Il suffit de regarder autour de nous pour en être convaincu. Tout cela n'apporte que pleurs et grincements de dents. Mais le Christ vivant transforme encore le monde par la semence de son esprit. Alors Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés ? À celui qui le questionne, Jésus désigne une porte ouverte, une porte grande ouverte, mais une porte étroite. Il ne propose pas une théorie et ne communique pas de statistiques. Il place sous nos yeux une double possibilité, la mort et la vie. Il fait comprendre que la seconde, la vie, est offerte à tous en sa personne, et il exhorte à la choisir. En ayant bien conscience que ce choix réclame une décision difficile, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cette porte étroite, c'est l'obéissance confiante à la voix du Sauveur. C'est le don de nous-mêmes entre les mains de notre Dieu. Car c'est à lui qu'appartient l'avenir. C'est à lui qu'appartient cette année et toutes les autres. Et Jésus nous révèle que Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer, que sa paix surpasse toute intelligence. Alors plutôt que de spéculer sur l'avenir, il y en a beaucoup qui le font en ce moment, il est bien plus urgent de se baisser, de s'incliner pour entrer dès aujourd'hui par la porte étroite, pour nous mettre au service de Jésus-Christ, afin de vivre avec lui et pour lui, dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous prions. Merci Dieu notre Père de nous avoir donné ton Fils Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte. Il est la porte et il frappe encore aujourd'hui à la porte de nos cœurs. Toute cette image de la porte, Seigneur, est remplie d'espérance parce qu'elle nous dit que cette porte, tu nous l'ouvres, Seigneur, pour nous donner le salut. Et tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Te demandons simplement, Seigneur, de nous aider toujours plus à entrer par la porte qu'est notre Sauveur Jésus-Christ, à lui donner notre vie, à lui donner notre foi, à remettre en lui toute notre espérance. Nous te demandons, Seigneur, de faire de nos vies, de faire de notre Église un lieu qui rayonne la joie de t'appartenir et qui donne envie d'entrer par ta porte, Seigneur, et d'y trouver le refuge, l'abri, la chaleur, le salut. Et nous te demandons, Seigneur, pour que cette porte ouverte, Seigneur, soit découverte toujours plus par ces multitudes d'hommes et de femmes qui nous entourent, qui vivent dans ce monde, souvent dans le désespoir, dans la tristesse, dans la peur, dans l'angoisse, pour qu'elles puissent aussi trouver à travers cette porte la lumière de ta grâce, la lumière de ton amour. Merci pour ton salut, Seigneur Jésus. Merci pour ton pardon. Merci pour tes bras grands ouverts qui nous accueillent pour nous donner avec toi la vie éternelle. Amen. Amen.